parce que je commence maintenant. Pâques. Ça veut dire quoi le mot Pâques? Quel est le mot qui a donné le mot Pâques? S'il y a quelqu'un qui le sait, il peut lever la main. Bon, dans 5 minutes, vous pourrez tous lever la main. En fait, au début janvier, le 2 janvier, c'était dimanche, j'ai déjà eu l'occasion de donner le message du dimanche. Et puis là, j'avais pris le thème de 6 fêtes dans la Bible, 6 rencontres en fait, plus que des fêtes, pour l'Éternel avec une signification bien précise. Et puis la première fête, c'était Pâques que j'ai mentionné. Et le quart de mon message, c'était Pâques, il y a 3 mois et demi. Puis aujourd'hui, c'est Pâques. Puis aujourd'hui, ça va être le 100% du message. Peut-être qu'il y aura un peu des répétitions, pardonnez-moi, mais en même temps, c'est juste et c'est normal que par rapport à la Bible, par rapport à nos réflexions, qu'il y ait des choses qu'on repasse dans notre cœur souvent. Donc, ça ne me crée pas un problème pour moi de vous parler à nouveau de Pâques. Et pour ça, il faut remonter quand même à environ 4000 ans en arrière, un petit peu moins. Il y avait un homme qu'on trouve décrit dans la Bible, qui s'appelle Jacob. Et puis Jacob, il avait un deuxième nom aussi, c'est Israël. C'est toujours le même personnage. Hein. Et puis Jacob et sa famille sont partis à un moment donné en Égypte pour des raisons économiques. C'était des réfugiés, mais économiques. Et là, il y a les enfants de Jacob, donc on peut dire les enfants d'Israël, c'est l'homme, hein, ont eu des enfants, eux-mêmes ont eu des enfants et ils sont devenus de plus en plus grands. Et en parlant des enfants d'Israël, c'est le terme que la Bible utilise, c'est pour dire tous les descendants de ce Jacob. Hein. Et à un moment donné, ces enfants d'Israël sont devenus très nombreux. Et puis le roi Pharaon a vu une opportunité et il en a fait des esclaves. C'était l'homme tout puissant, il n'y a pas de discussion, vous bossez et c'est pour moi. Et là, ils ont souffert sous cette oppression. Et puis un jour, un de ces rois, Pharaon, a, je dirais, dépassé la ligne rouge. Il a voulu réguler les naissances parce qu'il voulait contenir un petit peu l'évolution de ce peuple. Et il avait planifié de tuer tout simplement tous les enfants mâles. Et là, il y a eu des stratagèmes par les enfants d'Israël pour éviter ce drame. Et notamment, un enfant a été sauvé grâce à ces stratagèmes, grâce à plusieurs femmes, si on regarde, c'est que des femmes qui sont intervenues. Et ce petit bébé a été mis sur le fleuve du Nil, sur une petite embarcation, et il a été récupéré, on a envie de se pincer parce que c'est presque incroyable, par la fille de Pharaon. C'est elle qui a sauvé cet enfant, c'est elle qui a donné le nom de Moïse à Moïse. Voilà. Et puis, 80 ans plus tard, Dieu s'est révélé à Moïse. Et puis, il lui a donné un ordre. Il a dit, tu vas vers Pharaon et tu dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et il s'est exécuté. Et puis, vous savez bien que Pharaon, il n'en avait rien à faire. Il avait des esclaves. On lui raconte une histoire. Il n'a pas bougé. Et là, il y a un bras de fer qui a commencé. Pas entre Moïse et le roi, mais entre Dieu et le roi. Parce que Dieu avait défini, c'est fini maintenant, ce peuple doit être libéré. Et puis ce bras de fer, ça a été des fléaux, il y en a eu une dizaine, et arrivé au 10e fléau, là c'était la totale, et puis Dieu a parlé à tous, aux enfants d'Israël, en leur disant, écoutez, le premier mois de l'année, c'est justement au printemps, hein, le 14e jour, comme c'est des mois lunaires, 14e jour c'est la pleine lune, à la pleine lune, le 14e jour, vous allez bouchoyer un agneau et puis vous allez le manger pendant la nuit pour prendre des forces et le sang, vous allez le mettre sur les linteaux, sur à la porte. Ouais. Et voilà. Et maintenant, je prends la Bible et je lis le premier texte. Cette nuit-là, donc le 14 du premier mois, c'est Dieu qui parle, hein, cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux, je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre qui ? Contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, les enfants d'Israël, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription de génération en génération, pour toujours. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Passerai. Il y a des fois des hasards linguistiques. C'est-à-dire qu'on a ce mot en français, passer, et le mot dans le texte d'origine de la Bible, qui est l'hébreu, ça ressemble, c'est passar. Passer, passar. Et passar, c'est le verbe, et le verbe a donné un substantif, pessar. Et passer est devenu Pâques. Pâques, c'est le passage peut-être de drame, mais qui ne nous atteint pas. Et Pâques, ça veut dire ça. Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris un bon bout. Hein. Et puis là, comme vous l'avez vu, d'emblée, l'Éternel a dit, chaque année, à telle période, vous allez vous souvenir de cet événement. Ce qui fait que c'est devenu une tradition, mais une tradition de Dieu, pas une tradition humaine. Et régulièrement, plus ou moins avec conviction, ça a été vécu. Et puis, on le sait, ensuite, ce peuple a vraiment été libéré. Et puis, ils sont allés sur la terre qui leur était attribuée, qui est devenue Israël. Et là, eh bien, régulièrement, donc, il y avait cette fête de Pâques. Et puis, plusieurs centaines d'années après, il y avait des jeunes, ils étaient une dizaine, qui étaient des bons amis. Et puis, ils vadrouillaient, ils voyageaient un petit peu dans le pays. Et moi, je dis, ils n'avaient pas de domicile fixe. Donc, c'était un peu des SDF, hein, des gens simples, pas trop riches. Et voilà que ces SDF... un jour, arrive près de Jérusalem, la capitale, et il se trouve que c'est justement Pâques. Et puis comme ils sont juifs et qu'ils sont respectueux des traditions, et ben ils se sont dit, on va faire cette liturgie, si on veut. Et pour ça, ben, il fallait quand même trouver un local, ils ont trouvé un local, et puis ils ont acheté du pain, un peu des boissons, ils se sont retrouvés. Et le soir, parce que c'est intéressant de savoir que, c'est rigolo à dire comme ça, mais le jour en Israël commence le soir. C'est-à-dire que le 14 du premier mois, le 14e jour, ça commence le soir. Voilà. Et là, donc, dans cette soirée-là, ils sont là, et puis ils font selon ce qui se fait d'habitude, ils mangent le pain, ils boivent un peu de vin, et puis là, il y a quelqu'un qui prend le pain, puis qui dit, c'est mon corps que vous mangez. Et puis là, il y a une stupeur. Les gens disent, quoi ? Il a dit quoi ? Vous avez bien réalisé que je suis en train raconter l'histoire de Jésus, mais un petit peu de manière romancée. Pourquoi je l'ai fait comme ça ? C'est juste pour qu'on réalise qu'à ce moment-là où ces choses ont été vécues, il n'y a personne qui n'imaginait que dans ce local, il y aurait un événement aussi important. C'était moins, pour nous, ce culte ici, on est 30-40, je ne sais pas, ça marque plus que cette soirée-là, avec ces quelques personnes, est un peu improvisée. Et pourtant, c'est un événement capital, vous le savez. Hein, donc, pour ça, je ne vous apprends pas. Et puis ensuite, Jésus a versé le vin, il a dit, prenez-en tous, c'est mon sang qui est versé pour tous. Mais là, de nouveau, c'était la stupeur. Ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire. Nous, on sait, c'est tranquille, hein, mais là, pas. Et puis cette nuit-là, pleine lune, Jésus a dit, ben maintenant, on sort. Ils auraient plutôt eu envie d'aller dormir. Et ils sont sortis avec ses amis, ses disciples. Et là, il a été lâchement livré par un traître que vous connaissez. Et puis, il a été livré aux autorités religieuses de l'époque. C'est-à-dire qu'il est allé devant un grand sacrificateur. Donc, c'est étonnant, moi j'ai toujours été étonné, parce que si on lit un peu les textes, on voit qu'il y a deux grands sacrificateurs. Donc un grand sacrificateur, c'était le personnage qui chapeautait finalement tout le judaïsme. Et puis c'était aussi une, là peut-être pas une tradition, mais enfin j'entends, une organisation donnée par l'Éternel lui-même, qui avait dit il y aura un grand sacrificateur et il sera responsable jusqu'à ce qu'il soit mort. Et quand il meurt, c'est son fils. Et ça continue. Et puis, voilà qu'il y a deux grands sacrificateurs, mais c'est le beau-père et le beau-fils. C'est déjà curieux. Il n'y a pas la descendance. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y en a un qui est à la retraite, puis pas l'autre. Et puis finalement, c'était un peu des amis des Romains, donc un peu des combines là-dedans. Et voilà que Jésus est présenté devant eux, devant un, puis après devant l'autre. Il est accusé en disant, mais... est-ce que tu es le fils de Dieu? Tu as dit ça. Il a dit, je le suis. Et puis, c'est incroyable de penser que ces grands sacrificateurs n'ont pas réalisé que devant eux, il y avait le grand sacrificateur. Parce que Jésus a été oint, roi et grand sacrificateur. Et ils n'ont pas réalisé qu'eux, ils étaient l'image, ils auraient dû être l'image de celui qui allait venir et qui n'allait jamais mourir, qui allait être le grand sacrificateur de tous les temps. Voilà. Et puis ensuite, ils l'ont passé au pouvoir romain, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité légalement de le tuer, ils voulaient qu'il soit mis à mort. Les Romains l'ont pris, et puis finalement, c'est eux qui l'ont mis en croix, mais avec prétexte qu'il aurait dit « Je suis roi des Juifs ». Et puis Jésus a dit « Oui, mais mon royaume n'est pas de ce monde, hein. » Donc pas de souci pour les Romains. Mais enfin, sous ce prétexte, enfin vous connaissez peut-être les autres détails, il a été mis à la croix, crucifié, et puis on a mis une pancarte sur la croix avec disons, le texte qui dit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Pourquoi on dit de Nazareth? Parce qu'il y avait beaucoup de Jésus à cette époque-là, c'était un prénom commun, mais c'était pour préciser, c'est Jésus de Nazareth qui est là, mis en croix, et puis roi des Juifs. Et c'était en trois langues. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des peintures justement de crucifixion, ou même peut-être des crucifix, où on voit le texte INRI. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Enfin, oui. Ça veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs, hein, en latin. Et puis il y a des hébraïsants, qui parlent bien l'hébreu, qui ont imaginé, parce qu'il était aussi en hébreu, alors qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été en hébreu? Eh bien, ils ont vu que ça aurait été, bien sûr, Yeshua, à Nazareth, qui veut dire de Nazareth. Et puis Yeshua, donc, c'est Y, hein, à Nazareth, c'est un H. Vemeler, ça veut dire héroi, un V. Ha Yehudim, des Juifs, de nouveau un H. Y, H, V, H. C'est les quatre lettres, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, en hébreu, qui veut dire l'Éternel. On imagine la scène. Bon, on n'a pas vu, on n'est pas absolument sûr de comment ça se présentait, mais si on mettait INRI, un peintre pourrait mettre l'Éternel. Jésus, le Fils de Dieu, c'est lui qui meurt sur la croix. Voilà, c'est Pâques, ça. Hein? Jésus est mort, on le sait. Et puis, je vous raconte une anecdote. Un jour, j'étais avec ma mère, ici à Bienne, du côté du cimetière de Madrid. Hein? Puis on s'est arrêté, on était en voiture, j'étais adulte hein, là aussi, avec elle, et puis on allait un petit peu se promener dans ce grand parc en fait, qui est un cimetière, parce que donc on connaît quelqu'un, ou voilà, ça c'est particulier, mais c'est aussi enrichissant. Mais il y a une ambiance aussi dans un cimetière. Et puis là, on retourne dans la voiture, après avoir fait cette visite, et là il y avait... comme à l'époque, le plus souvent, un cassettophone. On avait un cassettophone dans la voiture, donc cassette avec petite bande magnétique. Et la cassette était enfoncée, donc prête à fonctionner, parce que normalement on les poussait pour que ça fonctionne, était dedans. Et puis il y avait le volume qui était plein tube, réglé. Hein. Plein. Là. Et puis au moment où on met en marche la voiture, ah ben, ça démarre. mais d'une voix tonitruante, ça a presque craqué le haut-parleur. Vous savez ce qu'ils ont sort comme parole? Le tombeau est vide. Oui, moi je dois un peu. Mais le tombeau est vide, mais ça gueulait. C'était un chant de Daniel et Moïse. Le tombeau est vide, le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Voilà. Moi, ça m'a fait pouf. Eh bien, c'est ça. Jésus est ressuscité. Après 3 jours et 3 nuits, il est ressuscité. Si je vous dis ça, 3 jours et 3 nuits, vous êtes d'accord avec cette expression? Vendredi, il est mort. Samedi, en nuit. Samedi à dimanche, 2 nuits. Pardon? C'est un peu compliqué. J'allais préciser, ce n'est pas très important. Mais je vous donne quand même quelque chose, parce qu'il y a un indice. Vous savez que Jésus, il est mort le 14 du premier mois. Ça, c'est sûr. C'est comme si on dit le 25 décembre, c'est Noël. Mais le 25 décembre, ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on est d'accord. Donc, il est mort le 14, on ne sait pas quelle date. Imaginons que ce soit jeudi et pas vendredi. Le 14, le lendemain, c'est le 15. Et si vous lisez la Bible, vous voyez que le 15, c'est un jour où on ne devait pas travailler. C'était Shabbat. Et oui, Shabbat, ce n'est pas forcément le samedi, ça peut être aussi le vendredi. Admettons, ça veut dire que jeudi, il est décédé, il fallait le mettre dans le tombeau parce que c'était Shabbat, mais c'était Shabbat le 15, qui est un Shabbat. Et puis samedi, ben, c'est aussi Shabbat. C'est 2 samedis, c'est tout. Et puis le premier jour de la semaine, ça c'est sûr, c'est dimanche, Jésus est ressuscité. Voilà, 3 jours, 3 nuits, si ça vous aide, mais c'est pas, on ne va pas faire un débat là-dessus. Hein. Voilà. On peut imaginer que l'année suivante, quand c'était de nouveau Pâques, l'Église était là. L'Église existait, il y avait des milliers. Mais c'était essentiellement, à ce moment-là, des Juifs, qui étaient toujours Juifs, et puis qui ont certainement vécu la Pâque, qui sont peut-être allés aussi au Temple. Hein. Mais il est évident qu'en fêtant la Pâque sortie d'Égypte, ils pensaient à Jésus. On est d'accord. Et là, je pense que Pâques, la sortie d'Égypte que j'ai racontée, ou Pâques, la mort de Jésus, c'est la même chose. Pâques, c'est Jésus. Et la sortie d'Égypte, Jésus était présent. On peut être étonné, mais non, il n'était pas, né, c'est 1500 ans après. Puis là, j'ai pensé à un verset. Je dirais qu'il y a une preuve que Jésus était là à ce moment-là. J'ai pensé à un texte du Nouveau Testament, mais j'avais pas encore eu le temps de chercher la référence. Je reçois un email sur mon smartphone. C'est marrant, le hasard. Et cet email, il vient de Jérusalem, d'un institut israélien d'études bibliques. Alors bon, c'est promotionnel. C'est pas moi, j'espère, non. C'est promotionnel. C'est marrant, ouais, je parle de mail, puis on entend tout. Et puis... C'est voilà, il vient de cet institut d'études bibliques, qui est lié d'ailleurs à l'Université de Jérusalem, pour promouvoir l'hébreu biblique, entre autres. Hein. Et puis, je vous lis le texte, parce qu'alors, faut le voir. Alors, j'ai fait une copie. Shalom Jean-Paul. Cette semaine, nous célébrons Pessah. Alors, parlons des miracles que Dieu a accomplis pour nos pères pendant l'exode d'Égypte. Et oui, eux disent nos pères, parce que c'est des enfants d'Israël. L'un de ces miracles est rapporté dans le Nouveau Testament. Ça, c'est intéressant. Des Juifs qui disent, vous, chrétiens, parce qu'ils savent à qui ils s'adressent. Écoutez ça. Et ils citent un verset de la Bible. Hein. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc, Paul, dans 1 Corinthiens 10, 4, dit que les Juifs qui étaient dans le désert, ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et effectivement, on trouve dans ces passages-là qu'il y avait un rocher auquel ils s'abreuvaient, il y a 2 rochers même, et puis c'est ce que les Juifs expliquent ensuite, ils disent selon eux, c'était qu'un seul rocher qui les a suivis, même si c'est à 2 endroits. Et puis ils disent, ben vous voyez, c'est ce que Paul dit, parce que Paul, il était juif. Voilà, c'est sympa, mais avec ça, je vous ai donné le verset qui dit, Jésus était présent, eh oui, à ce moment-là, et il était présent aussi. Ce n'est pas le sang des agneaux bouchoyés qui ont sauvé et qui ont libéré surtout. C'est bien le sang de Jésus, voilà. Mais c'était pas, tout le monde n'a pas été d'accord avec ce fait de dire c'est une même chose. Hein. Je suis en train de mélanger mes papiers. Et avec le temps, donc l'Église, il y a eu de moins en moins de juifs et de plus en plus des non-juifs. Et 200-300 ans après, il y avait un petit peu une discussion pour dire, mais la sortie d'Égypte, c'est Pâques juif, et puis Jésus, c'est la Pâques chrétienne. Et puis là, Constantin Ier a convoqué un concile, le concile de Nicée, et puis il leur a dit maintenant, chers amis, vous allez vous mettre d'accord. Hein. Alors ils ont décidé, à ce moment-là, ils ont décidé que ce ne serait plus le premier mois lunaire, mais puisqu'ils avaient le calendrier grégorien, ils ont dit, ça va être le premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars. Alors, comprenez, on attend le 21 mars, c'est le solstice printemps, hein, 21 mars, tac. Là, on s'intéresse à la lune. Je pense que cette année, le 21 mars, la pleine lune, c'était juste avant. Donc, on attend un cycle et la pleine lune revient. Elle est venue, je ne sais pas, il y a 2-3 jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a pleine lune. Et le prochain dimanche, c'est aujourd'hui, dimanche. Donc, on fait aujourd'hui Pâques selon le concile de Nicée. Puis les Juifs, ben, eux, ils continuent avec leur mois lunaire. C'est aussi un peu compliqué dans le sens que de temps en temps, il faut remettre un 13e mois parce que sinon, tout est décalé. Alors, ça change aussi donc leur Pâques à eux. Ça change aussi, mais ça vous donne l'explication pourquoi il y a des différences entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. On ne va pas encore pas parler de la Pâque orthodoxe, parce qu'après, il y a eu encore le calendrier julien. Alors finalement, il y a beaucoup de Pâques. Hein. Bon, peut-être quelqu'un, sachant ça, il pourrait dire, ouais, mais alors, ce qui compte, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible, elle dit, point barre, c'est le 14e jour, voilà. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas besoin de dire ça, parce que la réponse, elle nous a été donnée. Quand c'est ce qu'il faut fêter Pâques, vous savez, vous? C'est Jésus qui l'a dit. Quand il a dit, c'est mon corps, c'est mon sang, faites ceci à Pâques, chaque fois qu'on se retrouve. Et voilà, le problème est résolu. C'est plus la date qui est importante. Moi, je trouve que c'est sympa, c'est bien de le faire maintenant, puisque c'est marqué dans notre société occidentale. Bon, on fait aujourd'hui. Puis si on était en Israël, on le ferait à leur Pâques. Et puis si on le fait à d'autres moments, ça va aussi. Ce qui compte, c'est le contenu. C'est ça. Voilà. Pâques, hein. J'en suis où? Oh là là. J'ai perdu le fil. Quelqu'un me disait une fois, ouais, tu parles sans notes, oui, oui, mais pas toujours. Écoutez, moi je crois que je vous ai dit l'essentiel, mais enfin l'essentiel de l'histoire. Mais j'aimerais terminer avec, disons, le sens pour nous maintenant. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Et il y a 3 semaines, un peu plus, on a eu une étude biblique, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des études bibliques qui sont données dans notre église tous les 15 jours, sauf quand il y a les vacances. Et puis c'est Jean-François Jobin qui nous apporte un thème et on partage, c'est vraiment très très intéressant. Et puis il y a justement presque un mois, le thème c'était « Être sauvé, qu'est-ce que cela veut dire ?» On aurait pu imaginer, comme l'Institut israélien, d'envoyer un petit mail à tout le monde, shalom chacun, être sauvé, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, vous êtes invités à venir, on aura le débat. Bref, mais ce que j'ai pensé, moi j'ai repris quelques versets qui ont été cités à cette occasion de cette étude biblique, pas tous, mais tous ceux où on voit vraiment qu'il est parlé de Pâques, si on veut. Et puis je vous les lis, et puis on va souligner l'importance. Alors dans 1 Jean 3, 8, je ne sais pas si c'était dans la chronologie, mais je l'ai pris en premier, parce qu'il y a quelque chose à quoi on ne pense pas. On sait que Jésus est mort pour nos péchés. On sait qu'on est sauvé. Mais on ne sait pas très bien ce qui s'est passé quand même. Je veux dire, on le croit, puis c'est, oui, c'est vrai, on le sent. Mais il y a quelque chose qu'on nommait peut-être un peu, et je le dis, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. On oublie qu'il y a une puissance. Si vous avez remarqué dans le texte de la sortie d'Égypte, c'est écrit que Dieu a jugé, donc l'Éternel a jugé les dieux d'Égypte. On peut dire, ah mais les autres dieux et les faux dieux n'existent pas. Oui, d'accord. Mais le diable existe, la puissance existe. Le début de la Genèse, dans le jardin d'Éden, l'animal le plus rusé, c'était le serpent. Et le serpent a tenté Ève, et puis elle a pris de cet arbre la connaissance du bien et du mal. Et l'Éternel a dit au Satan, au serpent, là, il y aura inimitié entre toi et la descendance de la femme, Ève, c'est intéressant, pas de Adam, la descendance de Ève, la vie Ève, hein. Il y aura inimitié et il t'écrasera la tête, c'est ça. Et Jésus, le Pâques, c'est ça. Bien sûr, nous, on voit bien que tout n'est pas réglé, mais c'est fait. Parce que nous, on vit dans, comme diraient les scientifiques, dans l'espace-temps. Les réalités spirituelles, c'est ailleurs. Mais c'est fait. Et donc, quand on parle de Pâques, c'est bien de savoir ça. Et quand on lit ces choses-là, ce qu'on peut, c'est proclamer. Même si on ne comprend pas, même si on se dit, mais non, il est écrit. C'est la force de la Bible. Quand on le croit, il est écrit afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'est un point 1. Éphésiens 1, 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, Jésus, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos péchés. Mais vous entendez le mot délivrance. Ce n'est pas seulement qu'on est pardonné, mais on est délivré. Peut-être vous dites, ah, je ne suis pas vraiment délivré. Il est écrit. Ça ne veut pas dire qu'on veut tricher, mais la parole de Dieu elle est plus forte que ce que nous ressentons, ce que nous pensons vivre. N'hésitez pas, en ayant un texte de ce type, de dire « j'ai obtenu la délivrance », le pardon de nos fautes. Romains 6, 6, 7. « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. » Vous voyez, il est parlé d'esclavage, hein, là-dedans, du péché. Moi, le péché, c'est un mot que j'aime pas. Il y en a d'autres, vous serez un peu choqués si je vous disais ça, mais j'aime pas le mot français, péché, parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et j'ai pris du latin pour une fois. Péché, peccatum, peccatum. Erreur. Péché, c'est une erreur. Vous savez, si on prend un adjectif en français, ou je ne suis pas un grand spécialiste, mais par exemple flexible, si vous mettez un, donc IN devant, inflexible. Donc on a flexible, vous mettez un, c'est le contraire. Eh bien, peccatum, si vous mettez un, impeccable. Voilà. Être sans péché, c'est être impeccable. J'ai réalisé ça, je me suis dit, c'est pas mal. Et il y a des liens qu'on pourrait faire. Voilà. Et puis, après, allons quand même plus loin. On sait que ça, en fait, la Bible n'a pas été écrite en latin, en grec. Le Nouveau Testament, à Marcia, si je prononce juste, je ne sais pas, à Marcia. Mais on voit clairement que c'est aussi un mot qui est traduit, qui vient de notre cher hébreu, langue de l'Ancien Testament. Et puis là, il y a de nouveau un de ces hasards linguistiques, parce que le mot péché, enfin un des mots péché en hébreu, ça ne s'invente pas, c'est rata. Raté, rata. Et rata, ça veut dire quoi? Ça veut dire raté. En hébreu, c'est ça le pire. Rater la cible. Et ça, on sait que péché, c'est rater la cible. On le dit aussi souvent. Effectivement, l'hébreu donne cette notion-là de rata, le péché rata. Voilà. Je trouve que c'est intéressant. On pourrait continuer longtemps, mais je finis par un dernier verset autrefois, Colossiens 1, 21-22, autrefois vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Vous dites, mais la parole le dit, on y croit. Et on va dans cette direction. Ça ne veut pas dire qu'on y est arrivé, mais on va. Et puis, vous imaginez que le mot saint, c'est un mot que j'aime pas. Ça fait partie de ma liste des mots que j'aime pas. Mot en français, je ne dis pas la réalité. Et ce mot saint, en fait, pourquoi je ne l'aime pas, peut-être vous non plus, c'est parce que ça a été, maintenant on parle de canonisation. Les autorités religieuses désignent quelqu'un en disant il est saint, il est canonisé, et puis on peut en faire un culte. Et puis, si on dessine avec une petite auréole, et puis ça casse. Ça casse tout ce que ça signifie, ce mot saint. Ça ne nous fait pas envie. On n'est pas concerné. Hein? Et savez-vous que nous, on utilise toujours le mot chrétien. Je suis chrétien, chrétien, chrétien. Beaucoup, les librairies chrétiennes, églises chrétiennes. Dans la Bible, il n'y a presque jamais le mot chrétien. Il y a peut-être trois fois. Puis encore, c'est des non-chrétiens qui disent chrétien parce qu'ils qualifient ces gens qui parlent toujours du Messie, Messie. Mais la Bible, par contre, elle parle bon de disciples, ça c'est encore un thème, mais de saints, ou saints qui sont là. Puis, mais nous, on n'arrive plus à utiliser ce mot, il est cuit, hein. Il faudrait retrouver. Des fois, je me demande si on ne ferait pas mieux de carrément abandonner le mot, puis de reprendre un mot d'origine, comme par exemple, on dit « Amen », ça ne vous dérange pas de dire « Amen », c'est de l'hébreu. Vous dites « Alléluia », ça ne vous dérange pas, c'est de l'hébreu. On pourrait dire « Kadosh », puis fini, on a compris que « Kadosh », c'est ça. Voilà. Mais Pâques, c'est tout ça. Et puis, ça m'a fait plaisir de partager ça, parce que c'est vrai, on dit, ouais, c'est un stress, mais en même temps, c'est des trucs que je rumine, pour moi, hein. Et puis, de temps en temps, j'aime bien aussi le raconter à d'autres. Merci d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Hein. Amen. Il n'y a pas besoin d'applaudir. Non, 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 c'est pas...